C'est la revue de presse à 8h33 sur Radio Classique. Dans la presse de ce matin, bonjour Hervé.
Bonjour.
Le coup de gueule d'Emmanuel Macron face à la haute fonction publique. Tiens, le président de la République veut faire de la simplification une priorité.
Le mot-clé de son intervention, pour ne pas dire de son engueulade devant 700 hauts fonctionnaires, c'était « culture du résultat ». Les Échos titrent sur la charge de Macron contre l'administration, qu'il accuse de traîner les pieds pour se réformer. Le président a déploré une crise de l'efficacité de l'action publique et lancé cet avertissement « je sens une urgence parce que sinon les gens n'écouteront plus que la colère ». L'Opinion parle d'un assaut contre le Moloch administratif et signale que c'était le Premier ministre qui était censé présider cette convention managériale de l'État, comme on appelle cela, mais le président a tenu à passer ce savon en personne, exercice d'autant plus délicat selon Libération, qu'il s'agissait de louer la qualité des services publics tout en reprochant à leur cadre l'échec de la fameuse simplification. Vous voyez, ça n'est pas très simple.
Et en passant, je pose la question à nos auditeurs, peut-on faire du management en passant des savons à ses collaborateurs? Et je poursuis la revue de presse avec vous, Hervé Gattegnaud. Est-ce que l'effort de simplification réclamé par Emmanuel Macron n'est pas aussi une solution pour désendetter l'État?
Assurément, c'est une partie de la solution, mais rien n'est plus compliqué chez nous que de simplifier, sauf d'économiser. Le Figaro consacre sa une à l'avertissement de la Cour des comptes, dont le premier président, Pierre Moscovici, réclame 50 milliards d'économies à l'État. Il ne va pas, Pierre Moscovici, jusqu'à réclamer au gouvernement une culture du résultat, lui, mais il prévient, il va falloir du courage politique et de l'intelligence. Il en faudra pour sortir de cette nasse, car le Figaro Économie décrit une France dos au mur, alors que son éditorialiste la voit dans le mur et que la dépêche du Midi observe une France face au mur de la dette. C'est un encerclement. Dans La Croix, l'économiste Patrick Artus est pessimiste. En France, dit-il, il est très difficile de revenir sur une dépense publique. Ça promet.
En première page du Parisien, une autre vision de l'efficacité des services publics. Les contrôleurs de la SNCF auraient la main lourde quand ils infligent des amendes. Et je fais un erratum, j'ai parlé de la RATP toute la matinée, je ne sais pas pourquoi, mais c'était la SNCF, donc toutes mes excuses aux contrôleurs de la RATP.
Dans les trains, des contrôleurs jouent les cow-boys, écrit le Parisien qui a recueilli les témoignages de voyageurs ulcérés. Plusieurs ont été verbalisés pour n'avoir pu présenter qu'une copie numérique de leur carte d'identité, par exemple. La SNCF chiffre à 200 millions d'euros par an le manque à gagner dû à la fraude et revoilà la culture du résultat. On apprend donc dans Le Parisien que les contrôleurs touchent une commission sur chaque amende, à condition qu'elle soit réglée sur place. Pour un client sans billet, c'est 4% du montant de l'amende. Pour une cigarette fumée sur le quai ou un crachat, c'est 10%. Voilà qui peut inciter des contrôleurs à faire du zèle. Mais la SNCF assure que, sur réclamation, les amendes peuvent être reconsidérées et que c'est d'ailleurs souvent le cas. À l'arrivée, c'est peut-être bon pour le chiffre d'affaires, mais donc pas pour la simplification administrative.
Dans Ouest-France, on reparle de la SNCF, mais cette fois, il est question du manque de trains. La compagnie a trop de voyageurs et pas assez de wagons.
En moyenne, le taux d'occupation des TGV est de 80%. En réalité, certaines lignes sont saturées, tout le monde le sait, et il faut donc plus de rames. La commande est sur les rails, si j'ose dire, mais Alstom, le fabricant, a du retard. Mais pourquoi, demande Ouest-France, à l'heure de l'urgence climatique, le transport le moins polluant patine-t-il à ce point? La réponse est incroyable. Dans les années 2010, la SNCF a détruit 100 TGV parce que l'objectif était de réduire le coût d'exploitation des trains en les faisant rouler davantage. La culture du résultat est à double tranchant. Le Parisien nous apprend, lui, que la livraison des nouvelles rames du RER B aura, elle aussi, du retard. Mais là, tenez-vous bien, c'est parce qu'une norme européenne oblige à vérifier la sécurité sur les passages à niveau. Seulement voilà, il n'y a pas de passage à niveau sur cette ligne. C'est ce qu'on appelle un problème sans solution.
Les morts n'ont plus de problème de transport. Le Figaro a visité l'un des lieux les plus secrets de Paris, l'Institut médico-légal.
Le plus grand centre de thanatologie de France, vieux d'un siècle, est situé dans un immeuble en briques rouges au bord de la Seine. Un lieu qui entremêle une fascination pour le morbide et la pratique d'une étrange magie que seule permet la science, celle de faire parler les morts, c'est ce qu'écrit le Figaro. Les pensionnaires qui y défilent ont rejoint l'au-delà dans des circonstances brutales ou suspectes, tombés sous les balles ou poignardés, pendus ou empoisonnés, fauchés par une voiture ou trépassés dans la rue, découverts chez eux à l'état de squelette, tous ont disparu en laissant derrière eux des points d'interrogation. Le Figaro décrit les lieux avec précision, des vieilles légendes aux équipements modernes avec des accents de Gaston Leroux. On apprend que des autopsies sont pratiquées sur 50% des cadavres, pas plus, et que le taux de remplissage de l'Institut médico-légal est de 80%. Je vous le dis sans morgue, c'est aussi bien que le TGV.
On termine avec un peu de gravité. La dessinatrice du journal Libération reçoit des menaces pour un dessin consacré à la famine à Gaza.
Un dessin d'humour noir dans la tradition du journal sous le titre « Ramadan à Gaza ». Il lie sardoniquement la famine et le jeûne des musulmans. Le site Factuel le révélait hier soir. Depuis la parution de ce dessin lundi, son auteur, Corinne Ray, dite Coco, reçoit des menaces de mort, de viol, des injures antisémites. Libération, son journal, n'y revient ce matin que sous la forme d'un communiqué de 13 lignes, sans doute pour ne pas en rajouter. Coco assume son dessin dans lequel elle voulait, dit-elle, dénoncer la famine à Gaza et l'absurdité de la religion. Plusieurs élus de la France insoumise l'ont nommément prise à partie sur les réseaux sociaux. Factuel rappelle que Coco est l'une des rescapées de la tuerie au siège de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et que l'un de ses dessins avait été montré par Samuel Paty à ses élèves dans le cours sur la liberté d'expression qui a tout déclenché jusqu'à la mort de ce professeur. En matière d'humour, il n'y a pas de culture du résultat, on n'est jamais sûr de faire rire, mais ceux qui appellent à la haine pour un dessin sont eux-mêmes des caricatures.
La revue de presse d'Hervé Gattegnaud, à qui je dis tout simplement à demain, mon cher
Hervé.
Et merci dans un instant nos esprits libres, Marc Lambron.